Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. C'est le printemps, faut-il le répéter, c'est l'émission 150. Et jamais nous n'aurions imaginé vous la proposer dans ces circonstances, à l'heure où les Français s'éloignent en même temps qu'ils se réunissent. Eh bien, nous sommes là pour ça, vous réunir autour des médias qui nous ancrent dans la réalité et de la culture qui nous élève. Nous sommes ensemble pour une heure et demie de direct. On vous fera découvrir une série et des contenus pédagogiques mais très marrants pour les enfants. Vous pouvez évidemment podcaster tout ou partie de l'émission sur Europe 1.fr. Et également toutes celles que vous avez manquées. Merci de nous écouter. Si vous nous découvrez, il n'est jamais trop tard. Notre infomédia, comment le journal L'Équipe fait-il pour remplir ses pages et intéresser ses lecteurs alors que toutes les compétitions sportives sont arrêtées? Réponse avec son directeur de la rédaction, Jérôme Cazadieu. Nos invités ensuite, le truculent André Manoukian qui revient pour la 5e saison de La vie secrète des chansons. Ce sera ce soir et il a préparé une surprise pour nous, donc pour vous, une chanson spéciale coronavirus unique, inédite. Et puis le surdoué du théâtre, Alexis Michalik, avant le confinement, les 5 pièces qu'il a écrites dans sa jeune vie étaient toutes les 5 à l'affiche, c'est du jamais vu. Il viendra également nous parler de son premier roman, ça s'appelle Loin, c'était sorti à l'automne, et c'est vrai qu'on a envie d'aller loin. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. C'est parti avec Cyril Lacarrière, bonjour Cyril.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est le journal des médias, qu'est-ce que vous avez Cyril au menu ce matin?
En ce vendredi confiné, nous allons parler de ces copains confinés qui ne peuvent plus se voir, de Netflix qui lève le pied pour aider les confinés, de deux newsletters qui accompagnent les confinés, d'une émission faite par des confinés et de la fin d'un magazine emblématique pour cause d'audience confinée.
Mais Cyril, on débute évidemment avec les audiences d'hier soir qui ne sont pas confinées. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé ?
La première place de la soirée pour TF1 avec sa série Profilage qui a été regardée par près de 5 900 000 téléspectateurs. C'est en hausse par rapport à la semaine dernière. Deuxième place sur le podium avec le retour réussi de Michael Youn sur M6. Ah. Le Morning Night a été regardé par plus de 3 400 000 Français. Un très beau score pour l'ancien trublion de la 6.
Et énorme performance. Énorme performance aussi sur Twitter. Pardon Cyril.
Je vous en prie, à noter que la moyenne d'âge des téléspectateurs du Morning Night est de 35 ans plus jeune que Michael Youn. Et là encore, c'est une belle performance.
C'est drôle.
Enfin, troisième chaîne hier soir, France 2, avec un nouveau numéro d'envoyé spécial suivi par un peu plus de 2 millions de téléspectateurs.
Culture Média.
On commence maintenant le journal des médias à proprement parler avec un feuilleton qui décidément ne se terminera jamais.
Ce feuilleton, c'est celui du retour de Friends. Souvenez-vous, ça fait des mois que je vous parle du retour des 6 comédiens devant la caméra pour un projet commun. Il a fallu des mois de négociations pour réussir à mettre tout le monde d'accord. Il aura aussi fallu des photos sur Instagram qui cassent les internets. Et enfin, on y était. Les 6 avaient accepté de se retrouver le temps d'une simple émission pour se remémorer leurs plus beaux souvenirs. Le tout, quand même, hein, contre la bagatelle de 3 millions de dollars chacun. Eh bien, le coronavirus aura finalement eu raison de ce comeback. L'émission spéciale a finalement été décalée par la production et on ne sait absolument pas quand cela aura lieu, ni si cela aura lieu finalement un jour.
Alors on le sait Cyril, à cause du coronavirus, beaucoup, beaucoup de personnes ont été contraintes de se mettre au télétravail et ce n'est pas sans poser de problème.
Et oui, le risque, c'est que tout ce petit monde fasse saturer les internets. Pour éviter que cela puisse arriver, certains ont imaginé qu'on pourrait privilégier certains services plutôt que les divertissements. Alors, pour éviter qu'on en arrive à de telles mesures, Netflix a pris les devants et annoncé hier soir qu'il allait réduire ses débits de 25% dans toute l'Europe et pour une durée de 30 jours, une durée qui pourrait être prolongée. C'est une réduction drastique, mais qui ne devrait pas affecter les abonnés de la plateforme. C'est en tout cas ce qu'assure Netflix. La qualité sera préservée et ils n'auront pas à subir de rupture de flux.
Ouais. Et puis, si les gens veulent être vraiment certains d'avoir du bon débit, Netflix donne cette solution, c'est de télécharger la nuit et de regarder offline, comme on dit, hors connexion, ce que vous avez téléchargé. Cyril, tout à fait autre chose, vous voudriez nous parler d'une toute nouvelle newsletter qui arrive dans nos boîtes mail.
La newsletter des confinés e.e.s, c'est le doux nom du dernier né du groupe Sopress, à l'origine notamment de SoFoot et de Society. Et comme pas mal de médias ces derniers jours, Society a décidé de lancer une lettre quotidienne pour garder le contact avec ses lecteurs. Une décision prise il y a tout juste 72 heures avec l'intention d'apporter un peu de l'esprit du magazine dans vos boîtes mail. Anthony Mansuy, qui est en charge de ce nouveau projet, nous explique ce qu'on va trouver dans cette newsletter.
On va faire finalement des interviews avec des personnalités qui nous, à la fois nous racontent compte leur confinement, mais d'essayer d'aller un petit peu plus loin en essayant de faire penser notamment des artistes ou des gens peut-être un peu plus sérieux, des chercheurs qui peuvent essayer de théoriser un peu ce qui se passe, de voir ce que ça dit du monde aujourd'hui, de ce que ça dit de la réaction des Français à cet événement, ce que ça peut dire de la France, du pays, du monde dans lequel on vit, parce que c'est une situation finalement où on est à la fois infantilisé, mais en même temps où on se révèle un petit peu. Donc essayer de faire sortir tout ça un petit peu dans des interviews avec des personnalités. On va aussi mettre une photo un peu marrante par jour qu'on va produire nous-mêmes, des choses qu'on a vues nous-mêmes. On va aussi solliciter les lecteurs de la newsletter pour qu'ils nous fassent revenir eux-mêmes les informations marrantes. Par exemple, il va y avoir le message le plus absurde que vous ayez reçu de votre patron ou des messages de maman ou de papa qui s'inquiètent, des choses un petit peu drôles dessus, quoi.
La première newsletter déconfinée est partie hier matin, avec notamment une interview du comédien Pio Marmaille. Et je vous le disais, on y retrouve aussi beaucoup de ce qui fait l'essence de Society et des magazines du groupe Sopress.
Il y aura de l'humour, pas mal. Disons qu'en fait, c'est quelque chose de très sérieux, de très grave, mais qu'en même temps, quand on regarde autour de nous, il y a aussi des choses un peu drôles qui se passent. Enfin, la résilience des gens fait que il y a des choses assez drôles, on voit des messages sur les murs, parfois quand on va dans la rue, on voit aussi des scènes assez drôles se passer. Donc l'idée, c'est de soutenir un peu la gravité de la situation et d'être présent là-dessus aussi, mais de faire ressortir le côté humain et les histoires un peu drôles et intéressantes qui peuvent se produire par cette situation tout à fait étrange dans laquelle on est aujourd'hui là.
Si vous voulez essayer cette newsletter déconfinée, vous trouverez un lien pour vous inscrire sur www.society-magazine.fr. Et tiens, puisque je vous parle du groupe Sopress, j'en profite pour dire qu'ils ont lancé une campagne de financement participatif pour un nouveau projet payant, celui-ci, un trimestriel baptisé So Good. Je cite la présentation, un nouveau média pour explorer les solutions de demain dès aujourd'hui.
Et donc Cyril, si j'ai bien compris, les newsletters sont à la mode.
Absolument, en ces temps de confinement, comme certains rechigneront peut-être à sortir, à acheter la presse, c'est la presse qui vient à eux. Et après Society, je vous parle de Philosophy Magazine. Philosophy Magazine qui s'est à son tour lancé hier dans l'exercice de la newsletter. J'ai demandé à Alexandre Lacroix, le directeur des rédactions de Philosophy Magazine, et lui aussi confiné chez lui, ce que la philosophie pouvait nous apporter en ces temps de crise sanitaire.
Je dirais que la période que nous vivons est pour nous tous intrinsèquement philosophique. En fait, nous sommes en train de vivre un moment philosophique, c'est-à-dire un moment où les flux de l'économie, les transports, le travail s'arrêtent. On fait une pause, on réfléchit, nous allons avoir du temps. Chacun confiné chez soi va avoir l'occasion de retrouver ses proches, mais aussi de faire un point sur le sens de son existence, sur ses choix. Et je pense que collectivement, c'est aussi un moment incroyable pour nos sociétés modernes, où il va être possible de questionner nos valeurs fondamentales. À quoi tenons-nous vraiment ? Essayer de ne pas céder, je dirais aussi, à la panique, aux affects, aux passions. Ce discernement de la philosophie est toujours fondé sur l'exercice de la conversation, de l'entretien, du langage, de certaines procédures de raisonnement rationnel aussi. Et donc, dans un moment où l'irrationnel pourrait déferler, si vous voulez, il me semble que le discernement philosophique ou la clarté philosophique peuvent faire un peu rempart à des affects qui pourraient être envahissants.
Un regard d'apaisement donc que nous offre Philosophy Magazine qui proposait mardi pour sa première newsletter un entretien avec Marcel Gaucher. Si vous voulez vous inscrire à cette newsletter entièrement gratuite, ça se passe sur philomag.com.
Et puis Cyril, vous avez à nous signaler une autre initiative pour accompagner les Français confinés.
On le sait, les médias rivalisent de générosité pour accompagner nos concitoyens durant cette période difficile. Cette fois, c'est l'application Molotov qui a décidé de faire un geste. Molotov a décidé d'offrir 50 chaînes à ses utilisateurs, 50 chaînes généralement payantes et qui seront donc accessibles gratuitement. Il y en a pour tous les goûts, du cinéma, de la musique, de l'info internationale et bien sûr, de nombreuses chaînes pour les enfants et les ados, car les parents le savent bien maintenant, il va falloir occuper leur marmot durant les prochaines semaines.
Et puis toujours autour du coronavirus, signale qu'Europe 1 a lancé un podcast Mac Question coronavirus qui regroupe toutes les questions que se posent nos auditeurs et auditrices et qui évidemment permettra d'y voir plus clair les réponses. Cyril, dimanche, l'émission C'est Politique va elle aussi se mettre au diapason des consignes sanitaires.
Pas de passe-droit pour Karim Rissouli et ses équipes qui sont comme tous les Français en confinement chez eux et c'est donc de chez eux que les journalistes et ses chroniqueurs vont présenter dimanche leur numéro hebdomadaire de C'est Politique. Karim Rissouli nous explique comment les choses vont se passer.
Moi je serai dans le bureau du maire. de la petite commune de Rémalard-en-Perche, qui est la commune où je suis confiné. Le maire sera pas là, mais j'aurai accès à son bureau où je serai devant mon ordinateur. J'aurai en mosaïque devant mon ordi les différents chroniqueurs. On aura normalement, je croise les doigts, mais c'est bien parti, deux grands intellectuels qui seront Jean Viard et Edgar Morin. Edgar Morin qui a 98 ans, qui a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, donc... Le regard de cette figure du siècle qui vient de s'écouler, j'ai vraiment hâte de l'entendre sur cette crise qu'on traverse. Donc voilà, une émission qui va être très riche. Alors, j'ai l'air hyper sûr de moi là comme ça peut-être, mais il y a énormément d'inconnus. Mais j'espère qu'on va réussir à raconter au mieux cette crise et à faire notre part de travail de service public et même d'utilité publique, parce que pour le coup, on n'est absolument pas des résistants, contrairement à ceux qui se battent au quotidien dans les hôpitaux. Mais voilà, notre métier, c'est d'essayer d'informer au mieux. J'espère qu'on va réussir à le faire, et encore une fois en étant 100% sécurité sanitaire pour les équipes, et aussi pour le signal qu'on envoie aux gens qui nous regardent. Je pense que de voir des gens qui sont confinés et qui font leur travail, mais en respectant les règles imposées par les autorités sanitaires, peut-être que c'est un bon signal aussi.
Une émission exemplaire donc, mais qui évidemment n'est pas sans poser, mais ce n'est pas évidemment pas sans poser de problème, pardon. Travail à distance, ça n'aide pas et ça oblige à multiplier les appels, les réunions. Et j'ai quand même demandé à Karim Rissouli s'il y avait un aspect positif à tout ça.
Ça apporte du positif, mais comme tous les métiers d'ailleurs, hein, comme peut-être même dans les familles, on se redécouvre peut-être les uns et les autres, on se découvre davantage. Je pense que c'est un révélateur en fait pour tout le monde et y compris pour nous. Ça crée de la solidarité dans les équipes assez évidente, parce que construire 1h20 d'émission comme ça avec des équipes aux quatre coins du pays, avec des moyens techniques, là par moi je suis dans le Perche, on est quasiment en zone blanche au niveau réseau téléphonique. Là je vous parle, je suis à un point wifi où ça capte bien, mais c'est un défi technique assez incroyable. Donc ça génère, je pense, ouais, une très grande solidarité qui, à mon avis, se ressent aussi dans le reste de la population. Mais je pense que de ce point de vue-là, les journalistes ne sont pas différents des autres, vraiment.
De la solidarité donc, C'est Politique. C'est dimanche à 18h35, attention quand même, cette semaine, pas de C'est Politique la suite, l'émission s'arrêtera à la fin de sa première partie.
Et puis dans un tout autre genre, la fin d'un magazine emblématique qui a fait les beaux jours d'un paquet d'adolescents.
Et c'est la fin d'une ère, la fin du magazine Playboy. Le célèbre mensuel américain créé par Hugh Hefner en 1953 va disparaître des kiosques. Une décision prise par son patron actuel et qui prend effet immédiatement. Selon le directeur de Playboy, cette décision a été inéluctable et le coronavirus l'a tout simplement accéléré. À l'heure d'Internet, le magazine de charme avait perdu de nombreux clients. Mais Playboy ne meurt pas vraiment. La marque va continuer d'exister, justement, sur Internet et toujours avec sa Playmate du mois.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Je vous souhaite un bon week-end.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Comment sortir tous les jours un journal sportif quand toutes les compétitions sportives sont annulées ou reportées pour cause de coronavirus? Comment parler de sport quand il n'y a plus de foot, de tennis, de rugby, de cyclisme, de Formule 1, de basket? J'en oublie. C'est la difficulté à laquelle le quotidien, l'équipe, est confrontée depuis quelques jours. Pour en parler, nous recevons Jérôme Cazadieu. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la rédaction du journal L'Équipe. Le week-end approche, normalement c'est le pic des compétitions. Il y a quoi dans le journal L'Équipe ce matin?
Alors ce matin, on sort une information concernant le club de Saint-Étienne, ouais, où on a aujourd'hui pas mal de tensions entre les deux présidents et actionnaires et l'entraîneur qui est prêt à s'en aller en fin de saison si jamais il n'avait pas ses prérogatives préservé.
Je vais vous dire ce qui m'a amusé, parce qu'évidemment, de l'info, j'ai le journal L'Équipe à la main, évidemment. Ce qui m'amuse, c'est que le président et Claude Puel qui menacent de claquer la porte si le président lui-même ne part pas, ils sont confinés, mais ça ne les empêche pas de s'engueuler au téléphone.
Exactement, ils sont même vus le premier jour de confinement à l'ETRA, au centre d'entraînement de Saint-Etienne, pour s'expliquer là-dessus. Donc voilà, nous, on raconte évidemment des histoires, comme hier également, avec Ronaldinho, qui est actuellement détenu au Paraguay en prison pour une histoire de blanchiment d'argent. Donc on va essayer d'alterner entre de l'information, des histoires, et puis les conséquences du coronavirus sur le sport, qu'on essaie de ne pas traiter tous les jours en une pour offrir une information un peu différente à nos lecteurs.
Évidemment, et on sent qu'il y a de la tension dans le monde entier, mais en tout cas dans toute la France, y compris dans le monde du sport, parce que votre premier titre, ce sont les bisbilles au sein de la direction et de l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, des Verts, mais le deuxième papier, ça se passe à Angers, Chaban-Piqueux, l'heure du divorce, ça se passe dans le club d'Angers où il y a des tensions, le papier suivant, c'est la chute d'un charmeur, un papier sur le PSG, du blues à la maison. Tout le monde du sport est plus que confiné et morose, évidemment, et ça affecte beaucoup, on le sait, le mental sur les performances sportives.
Alors c'est sûr, aujourd'hui les sportifs sont cloisonnés et cloîtrés un peu chez eux. Alors pas tous, hein. On a vu que certains joueurs du PSG ont réussi à prendre des avions privés pour se rendre au Brésil, ce qui est le cas de Neymar ou en Uruguay de Cavani. Mais la plupart des sportifs essaient de trouver des moyens alternatifs de rester en forme, puisque dans certaines disciplines, certains sont également confrontés au maintien ou en tout cas à ne pas perdre de poids.
Comment font-ils alors justement ?
Bah, par exemple, on a des gymnastes qui se sont fait livrer chez eux des chevals d'arçon. On sait que par exemple Renaud Lavillenie a la possibilité de sauter dans son jardin.
Ouais.
On va faire un gros reportage aujourd'hui ou demain dans le sud-est de la France avec des tennismen français qui ont réussi, qui ont anticipé, voilà, et qui sont dans des villas avec des cours de tennis. Donc on va être avec eux à l'entraînement. Voilà, il y a deux tennismen français qui s'entraînent actuellement. Donc on va essayer de raconter un peu le sport de manière alternative.
Vous montrez la préparation olympique, c'est le surtitre, c'est le système D. On voit les archers qui se mettent au vert, on voit Jean-Charles Valadon, par exemple, vice-champion du monde, qui est chez lui en Sologne, qui est avec d'autres archers, et il peut tirer dans son jardin, enfin tirer des flèches. Et Morante, je sais pas comment on dit, c'est Alan Morante. Il espère décrocher la première médaille olympique française en trampoline. Et pardon, le titre m'a fait sourire, il dit « j'ai bien un jardin, mais j'ai pas de trampoline ». C'est quand même pas de bol.
C'est ça exactement. Là, sur la livraison, les fédérations essaient de négocier auprès des pouvoirs publics, via le ministère, la possibilité de venir en aide aux athlètes qui sont censés préparer les Jeux, puisque les Jeux n'ont pas été reportés.
Ouais.
Donc, a priori, ils devraient récupérer un trampoline dans pas longtemps. Mais oui, évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué, par exemple, pour Teddy Riner, dont on parle aujourd'hui, également, parce que Teddy Riner, lui, aujourd'hui, il n'a participé qu'à très peu de compétitions. Donc, si demain, il devait être aux Jeux Olympiques, il va avoir un tableau qui sera un tableau compliqué, et puis il a besoin aussi d'avoir de l'activité pour notamment faire attention à son poids. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont compliquées, mais bon, voilà, il y a pire, hein. Il faut être aussi solidaire avec la situation actuelle, et les sportifs peuvent très bien supporter de rester quelques semaines en confinement, comme le dit Claude Onesta également dans le journal du jour.
Alors vous dressez une liste des sports où il y a des annulations: athlétisme, automoto, basket, cyclisme, football, golf, handball, rugby, ski, glace, le sport de glace, le tennis, le volley, les autres sports, les sports olympiques. C'est quasiment une page. On apprend que Monaco, le Grand Prix de Monaco de Formule 1 sera annulé. Mais vous parliez de Teddy Riner et de sa préparation olympique. Pour l'instant, les JO au Japon, c'est toujours maintenu, c'est en stand-by. On en est où ?
Bah, ils sont toujours maintenus. C'est à la fois la volonté du gouvernement japonais, mais également de la population japonaise, puisqu'elle est derrière vraiment son gouvernement pour l'organisation des Jeux. Le CIO ne veut pas reporter d'un an les Jeux Olympiques. Donc, ce qui remonte aujourd'hui, c'est notamment, il y a Sébastien Coe, qui est le président de la Fédération Internationale d'Athlétisme, qui pousse éventuellement pour les décaler légèrement, comme ça avait été le cas en 68 avec les Jeux de Mexico, mais c'est pas encore d'actualité. Pour le moment, les Jeux sont maintenus jusqu'à preuve du contraire.
D'accord. Il y aura des séries que vous allez lancer cette semaine, on va en parler juste après ça. Également, comment ça se passe pour vous concrètement au sein de la rédaction? Et puis l'équipe, c'est du papier, mais c'est évidemment un site internet et une application. On en parle avec vous, Jérôme Cazadieu. Culture Média continue.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Retour en direct avec Jérôme Cazadieu. Vous êtes le directeur de la rédaction du journal L'Équipe, Le Quotidien. Sur quel thème seront les séries que vous allez lancer cette semaine? Justement, plutôt la semaine prochaine, enfin la semaine à venir, quoi.
Alors, on lance une série sur la Formule 1 qui est en rebond de toute la polémique qu'il y a eu la semaine dernière autour
du Grand Prix d'Australie.
Exactement. Non, pas tout à fait. De la protection qui l'AFIA aurait couvert Ferrari sur des dérogations autour de son moteur. Donc, on va revenir sur les grandes arnaques de la F1 à chaque fois qu'il y a eu des histoires de cet ordre-là. Donc, on va faire ça toute la semaine. On va essayer de faire une série, je dirais, foot et une série hors foot chaque semaine. Donc, côté foot, on va raconter un peu Cavani. Voilà l'histoire de Cavani qui devait quitter le club et qui finalement est resté, en est devenu le meilleur buteur. Mmh. On a lancé également une série sur le boxeur Tyson Fury, l'anglais qui est champion du monde des poids lourds, qui est complètement loufoque, voilà. Donc ce seront des séries qui seront sur 3 ou 4 ou 5 jours, et puis on l'avait déjà initié avant que la crise du coronavirus nous touche. On était intéressé pour raconter la grande histoire des Pinots à Rennes depuis l'éviction de leur président il n'y a pas très longtemps.
Est-ce que vous avez une rubrique échec dans le journal L'Équipe?
Alors, on n'a pas de rubrique.
Je veux dire pourquoi je pose la question, parce que c'est les seules compétitions autorisées, puisque ça peut se faire à distance.
Tout à fait. Alors, c'est pas les seules compétitions. Vous avez l'e-sport aussi qu'on a traité également.
C'est vrai,
l'e-sport. Les compétitions d'e-sport qui vont avoir lieu. Donc, on a quelqu'un qui est sur les championnats du monde d'échecs qui ont lieu actuellement et on va les raconter également. Et je sais que ça va vous intéresser parce que vous êtes un grand fan de F1. Ce week-end, on va raconter également le Grand Prix de Bahreïn qui va être disputé par une partie des pilotes, à distance sur un jeu de simulation.
Incroyable.
Ils ont décidé de le faire. Alors, il y aura quelques autres sportifs aussi qui veulent y participer, comme Gaël Monfils notamment.
Voilà, et il faut savoir que c'est tellement précis que les pilotes, avant d'aller sur un Grand Prix, un nouveau circuit, ils s'entraînent sur des jeux de simulation. C'est quasiment le vrai Grand Prix, l'odeur en moins. Il y a des gens, vous en parlez, vous enviez quelqu'un au championnat d'échecs. Il y a des gens présents physiquement au journal ou est-ce que c'est des numéros réalisés 100% en télétravail et à distance?
Alors, on a réussi la performance d'être à 100% télétravail pour toutes les fonctions rédactionnelles. Ouais. Voilà, il n'y a personne au siège, donc c'est une organisation assez folle qu'on a mise en place. On a travaillé dessus ces deux dernières semaines. On avait anticipé la règle du confinement qui allait être imposée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne fait pas un journal de 28, 32 ou 36 pages. On reste sur 24 pages aujourd'hui avec globalement 23 pages rédactionnelles parce que sur ce volume-là, on est capable de proposer un journal de très bonne facture.
Vous avez des membres de l'équipe ou touchés par le coronavirus ?
On a des soupçons, oui. On a des gens qui ont les symptômes. Globalement, il n'y a personne qui a de symptômes graves. Ouais. Pour tous ceux qui ont des symptômes, ils ont la possibilité d'avoir une consultation, une téléconsultation. Et si le médecin les déclare positifs, ils seront en confinement, en quarantaine pendant 14 jours, comme tout le monde.
Et est-ce que vous continuez, parce que vous êtes le patron de la rédaction, à envoyer des journalistes en reportage, avec évidemment les précautions qui s'imposent?
Tout à fait. Là, on part en reportage. On envoie une équipe avec donc deux tennismen qui sont dans le sud-est. On envisage d'avoir un ou deux sujets dans l'ouest. Donc, évidemment, on prend un maximum de précautions. Un des éléments qui nous a un petit peu freiné, c'est que même si le gouvernement a autorisé les journalistes à pouvoir circuler grâce à leur carte de presse, un certain nombre de forces de l'ordre n'ont pas eu toujours l'information. Donc on a vu certains de nos journalistes être bloqués parfois où on leur demandait d'avoir un papier justificatif supplémentaire. Donc on a attendu, je dirais, 48 heures avant vraiment de redémarrer les reportages.
Vous avez parlé de la pagination, elle est un peu allégée. 24 pages, c'est un peu ce que vous faites quand vient l'été, une fois que le Tour de France est passé. Qu'est-ce qui se passe au niveau du tirage? Je rappelle que le tirage habituel de l'équipe est conséquent. 185 000 exemplaires quotidiens et 230 000 dans ce qu'on appelle la diffusion payée. Là, vous tirez à moins d'exemplaires, j'imagine.
Oui, on tire à moins d'exemplaires. Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts parce que je ne les ai pas en tête, mais pour nous, c'est important de garder le journal en kiosque. On existe depuis plus de 70 ans. On doit ça vis-à-vis de nos lecteurs, même si on sait que nos lecteurs sont empêchés pour la plupart d'aller facilement au kiosque, puisque nos déplacements sont limités. Il y a des kiosques aussi qui ont fermé, je pense, par crainte évidemment de contamination. Donc on essaie de faire le dos rond et à un moment donné, la crise passera et ça redémarrera.
Et Jérôme Cazadieux, je me suis laissé dire que vous avez fait un effort au niveau du prix du journal. Là, il est à 1,80 ce matin. Il va rester à 1,80 ?
Non, il va baisser. On va baisser le prix du journal à 1 euro pour vraiment être attractif pour nos lecteurs. Le but, c'est de leur dire que on pense vraiment à eux. On essaie d'adapter, je dirais, notre offre aussi, et également notre prix à leur problématique actuelle. De la même manière, on a passé l'abonnement numérique à 99 centimes d'euros pendant 6 mois, par mois, afin de permettre à certains lecteurs qui peuvent pas se rendre au kiosque de pouvoir consulter leur journal et d'avoir accès à nos exclusivités abonnés. Donc voilà, ça marche plutôt bien du côté du numérique. Je peux pas vous donner de chiffres encore, si ce n'est que on est sur un coefficient multiplicateur par 5 ou 6 sur les prises d'abonnement en ce moment.
Par 5 ou 6, c'est énormissime.
Ouais, c'est plutôt pas mal.
Écoutez, c'est un moindre mal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai hâte de lire la série sur la F1. Merci Jérôme Cazadieux. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction du journal L'Équipe. L'Équipe qui se trouve en kiosque. Il y a encore des kiosques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec notre invité André Manoukian pour la 5e saison de La vie secrète des chansons. Et il nous a envoyé un petit cadeau, une surprise. Je sais que c'est une surprise. C'est une chanson spéciale coronavirus. Mais il l'a envoyé pendant l'émission, donc on l'a même pas entendu. Il y aura le journal de la culture.
culture d'Hélène Manerino. Puis on recevra Alexis Michalik pour son roman Loin. Et on va parler aussi de ses pièces de théâtre, parce que c'est le surdoué du théâtre. Dans les indispensables, on pense à vos enfants en période de confinement. Margot Barallon va proposer des contenus ludiques et pédagogiques pour eux. C'est-à-dire qu'on apprend des choses, mais on se marre en même temps. Et puis un documentaire qui revient sur l'affaire du dépeceur de Montréal. C'est vrai que c'est joyeux. Ça s'appelle Don't Fuck With Cats. Je ne traduis pas. Ce sera avec Louise Bernard. Vous restez avec nous.